C'est un plaisir de vous voir en grand nombre ici. Et juste avant de commencer, j'aimerais que tu te retournes à ton voisin ou ta voisine et dis-lui, ton voisin de gauche ou ta voisine de gauche, Dieu est grand. Est-ce que vous le croyez? Bon, vous n'êtes pas convaincu en le disant, là. Dieu est grand. Et à l'autre voisin ou voisine, dis-lui que Dieu est puissant. Amen. Et ça me fait, c'est un immense plaisir. Je remercie le pasteur. Merci pour cette invitation d'être parmi vous dimanche matin. C'est vraiment un honneur et un privilège d'être ici. Je veux remercier Jenny aussi pour, nous avons bien travaillé depuis que je suis arrivée. J'ai atterri sur Genève à vendredi matin. Nous avons fait une rencontre pour femmes de pasteur vendredi soir avec Jenny et toutes les femmes de pasteur. Et ce fut un moment merveilleux d'être dans votre église. Hier, on a eu une excellente journée. Et je remercie Claire. Elle est ici. Merci. Claire et toute l'organisation là-bas. On a été vraiment reçus comme des princesses et on a eu un temps fabuleux. N'est-ce pas, les femmes dans la présence de Dieu? Amen! Êtes-vous boostées encore? Oui. Et j'apporte avec moi les salutations, bien sûr, de ma famille. Je veux aussi dire un petit mot sur Luc Damaris. Vraiment, c'est une bénédiction. Nous les avons eus à Nouvelle Vie pendant quelques années et notre cœur était vraiment triste de les laisser partir, n'est-ce pas? Et je suis certaine qu'ils vont être une source de bénédiction parmi vous comme ils l'ont été à Nouvelle Vie. Vraiment, c'est un couple fantastique avec un ministère incroyable et nous sommes bénis et nos cœurs s'étaient attachés, mais il faut les laisser partir, n'est-ce pas? Et juste un petit mot sur Anne-Christelle aussi, qui est venue passer l'année chez nous l'année dernière et je la remercie personnellement. Elle est venue nous aider aux femmes, elle a travaillé avec nous et vraiment, c'est une source de bénédiction d'avoir fait ta connaissance. Dieu aussi un appel sur ta vie, des grandes choses en réserve pour toi. Et comme je disais, j'apporte, Luc a un peu parlé de ma famille, j'ai deux grands-enfants. Et mon mari est sur l'équipe pastorale, il travaille avec le pasteur Claudeau depuis maintenant plusieurs années, depuis la fondation d'ailleurs de l'équipe de l'Église Nouvelle Vie. Et en ce moment, Nouvelle Vie, nous vivons des moments extraordinaires. Nous sommes dans un temps fantastique, je ne le dis pas par orgueil, je le dis par reconnaissance au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois. À chaque dimanche matin, nous sommes maintenant en deux cultes, nous nous préparons pour un troisième et nous sommes à près de 4000 personnes francophones qui se réunissent dans un même lieu. Amen! C'est un miracle. Je me suis convertie dans une petite église de 60 personnes. Et juste pour vous dire que jamais je n'aurais cru voir, êtes-vous d'accord avec moi, en francophonie, d'aussi grandes églises. Et je remercie premièrement mon mari qui m'appuie dans mon ministère. C'est une grande richesse. Je l'ai dit aux femmes samedi et je le dis encore devant vous. Je veux honorer mon mari qui est un homme de Dieu. Et j'ai skypé avec lui hier. Il dit, je prie pour vous, je suis avec vous. Alors, il vous envoie ses salutations. C'est une richesse d'avoir une belle famille. Comme ça, je suis une femme riche. Et j'apporte avec moi les remerciements de Pasteur Claude. Il vous salue et vous remercie aussi pour l'appui que vous avez pour mon ministère. Ça aussi, c'est précieux d'avoir un pasteur principal qui vous appuie pour l'œuvre à laquelle le Seigneur vous appelle. Ce matin, je vais apporter la parole sur le titre que j'ai donné à mon message, c'est « Les splendeurs du Dieu créateur ». Amen. Je ne tenterai pas de vous faire un cours de biochimie, comme Luc vous a mentionné, Pasteur Luc, que je suis une biochimiste de formation. Mais j'avais à cœur depuis, en début d'année, nous commençons toujours un temps de jeûne, de prière. Et c'était sur mon cœur d'apporter aux gens de plus en plus cette notion-là de la grandeur, de la précision, de la puissance de Dieu dans la nature. Et pourquoi? Parce que lorsque nous traversons des temps de tempête, nous pouvons s'accrocher comme si on constate la grandeur de Dieu. Cela devient comme une ancre pour nos âmes. Est-ce que ça vous arrive de traverser des tempêtes? Est-ce que juste des tempêtes au Canada? Nous sortons d'une vague de froid, il y a fait moins 25 pendant au moins 7 jours. Alors, vous allez avoir de la compassion pour moi. Moi, je trouve qu'il fait très chaud à Genève. Et juste pour vous montrer, j'ai accepté, on peut passer les diapositives si tu veux aller. Moi, je me suis convertie, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie à l'âge de 15 ans, comme je vous ai dit, dans une petite ville du Québec qui s'appelle Rimouski. À cet endroit, il y a le plus beau soleil, semble-t-il, de la planète, les couchers de soleil de la planète. Et c'est à cet endroit-là que j'ai fait mes études comme chimiste de formation. J'ai fait fait mon baccalauréat en chimie. Et par la suite, j'ai poursuivi des études en biologie moléculaire, en biochimie. J'ai fait un doctorat en biochimie et un post-doctorat en biologie moléculaire. Et je me joins, vous savez, Louis Pasteur a fait une citation tellement profonde, parce que je m'adresse aussi aux jeunes dans ce lieu. Souvent, on croit que la science, tout ce qui est scientifique, éloigne de Dieu. On parle souvent d'évolution. Et au contraire, Louis Pasteur, qui est un grand scientifique, a dit « Un peu de science nous éloigne de Dieu, mais beaucoup nous y ramène. » Et c'est exactement ce que, lors de toutes mes études, lorsque j'ai étudié tout au niveau cellulaire, la perfection, la minutie, comment le Créateur a fait les cellules, ça ne peut pas être le fruit du hasard ou d'une lente évolution. Alors, j'ai étudié, et vous savez, Darwin a dit que nous descendions, on a toujours pensé que Darwin a dit que nous descendions du singe. Vous avez entendu ça? Mais c'est faux. Darwin n'a jamais dit qu'on descendait du singe. Il a dit qu'on descendait d'une seule cellule, un protozoaire, voyez-vous. Donc, vous êtes même, selon lui, nous sommes le fruit de l'évolution d'une simple cellule. Mais pour lui, à cette époque-là, une simple cellule, ça n'avait rien à voir à ce qu'on a découvert maintenant aujourd'hui. Et si je vous voyais juste une simple diapositive, ça, c'est sur lequel j'ai fait mon doctorat. Une simple cellule, voyez-vous, avec un noyau, des organites, tout est parfaitement régulé. Et à l'intérieur de cette cellule-là, si tu mets la prochaine diapositive, tu vas voir, ça c'est sur lequel, et on peut passer à la suivante aussi, c'est les voies de signalisation dans la cellule sur lequel j'ai fait mes recherches, et ça c'est une voie de signalisation qui fait qu'il peut avoir toutes sortes de mécanismes à l'intérieur d'une seule cellule. Je ne vous passerai pas d'examen et je vais faire court parce que c'est pas le but de mon exposé. Je veux juste vous emmener quelque part pour voir à l'intérieur de l'infiniment petit comment toute cette signalisation, comment à l'intérieur d'une seule cellule, les protéines se parlent et comment c'est parfaitement régulé. Si je vous emmène encore plus petit, vous savez, l'ADN on stocke de l'information incroyable dans l'ADN. On estime que toutes les molécules d'ADN de notre corps mises bout à bout feraient le tour du système solaire. Et tout ce grand filament, cette brin d'ADN-là est comprimé dans quelque chose qui est pas plus gros que le point sur la lettre I. Vous pouvez vous imaginer, les informations stockées dans l'ADN rempliraient 1000 ouvrages de 600 pages si on les consignait par écrit selon le National Geographic. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, pouvez-vous imaginer comment ça prend de la précision et comment ça prend du détail de la part du Dieu créateur pour avoir conçu ça? Mais ce qui est encore fabuleux, c'est qu'autant Dieu est puissant dans l'infiniment petit, comment il est puissant dans l'infiniment grand. Isaac Newton a dit « Les relations merveilleuses entre le soleil, les planètes et les comètes ne peuvent exister que selon un plan et les instructions d'un être omniscient et omnipotent. » Amen. Et ça fascine mon cœur de voir qu'il y a des grands scientifiques qui avaient foi en Dieu. Et il y a un astrophysicien, c'est un article de Science et Vie, qui a dit, lorsqu'on parlait de la minutie et de la grandeur de l'univers, tout se passe comme si quelqu'un avait minutieusement réglé les constantes de la nature pour modeler l'univers. Dans un univers si organisé, comment pourrions-nous être là par hasard? À cette question, l'astrophysicien Trinh Nguyen Thuan a répondu, la biologie ne connaît pas les processus qui ont mené les atomes inanimés à la vie. L'émergence de la vie dépend en effet d'un réglage extraordinairement précis des conditions initiales et d'une poignée de constantes physiques. Et regardez, changer un tant soit peu l'une de ces constantes et de ces conditions et nous ne serions plus là pour en parler. Et je continue, mais juste, je m'arrête ici. Imaginez comment cet univers-là, des forces gravitationnelles, les forces électromagnétiques, je vous dis beaucoup de mots ce matin, pas important de tout comprendre, mais tout cet univers si bien régulé, croyez-vous que c'est le fruit du hasard? C'est les desseins d'un Dieu puissant, d'un grand Dieu qui a tout modelé, nos cellules, l'univers parfaitement, parce qu'il nous aimait et parce qu'il a une destinée pour nous. Et je continue, ça dit, la précision à laquelle il faudrait régler ces différentes conditions et constantes pour aboutir à un univers comme le nôtre équivaut à la précision qu'un archer devrait obtenir pour placer une flèche dans une cible d'un centimètre carré à 15 milliards d'années-lumière. Ça prend du tir, tirer ta flèche précisément à 15 milliards d'années-lumière et arriver exactement sur la cible. On appelle ça de la précision. Êtes-vous d'accord avec moi? L'univers entier, votre vie, est parfaitement régulée avec cette précision-là sous la main d'un Dieu créateur, dans l'infiniment grand. Et faites-moi confiance, je m'en vais à quelque part avec ça. Vous savez, dans l'infiniment grand, lorsqu'on parle juste du soleil, vous savez, le soleil est une étoile parmi des milliards et milliards d'étoiles dans notre univers et dans notre propre galaxie. Et si on met la diapositive, le soleil est à 150 millions de kilomètres de la Terre. Et il est parfaitement au bon endroit. Si la Terre était tout près du soleil, un peu plus, à peine quelques poussières, on serait complètement cuit. Et si on était un petit peu plus loin du soleil, on serait complètement réfrigéré. Bon, ça ressemblerait au Québec, vous me direz, là, mais nous, on est un peu plus loin du soleil que vous. Mais c'est juste pour vous donner les grandeurs. Et le soleil dégage une énergie de 5500 degrés Celsius. Il envoie la lumière à 300 000 kilomètres par seconde. Amen? Un rayon de lumière n'a besoin que 8 minutes pour couvrir la distance de 150 millions de kilomètres. Il faudrait utiliser le produit intérieur brut des États-Unis pendant 7 millions d'années pour qu'une compagnie d'électricité fasse fonctionner le soleil pendant une seconde. Et on va se préparer pour la vidéo. Et pouvez-vous imaginer, le soleil n'est qu'une étoile parmi des milliards d'autres de notre galaxie, la Voie lactée, qui est une galaxie parmi des milliards d'autres galaxies. Et je vais préparer une petite vidéo. Vous allez voir, je vous ai parlé de la puissance du soleil. Mais c'est fascinant parce qu'à l'aide d'images, ils peuvent nous montrer que le soleil est tout petit par rapport à d'autres étoiles qui dégagent encore plus de puissance. Et savez-vous quoi? La parole de Dieu nous dit qu'il faut que Dieu vienne en puissance à l'appel de son nom. Et vous allez être d'accord avec moi qu'il faut être plus puissant que ce que nous créons. Et lorsque moi, j'ai regardé cette vidéo-là et je vois la puissance juste des astres, je me dis combien notre Dieu est puissant. Amen.
Notre soleil est immense et le débit de son énergie est énorme. Le centre du soleil brûle à plus de 27 de nous, mais sa lumière est notre principale source d'énergie. L'énergie part du soleil à l'incroyable débit de 5 millions de tonnes de matière par seconde. Et ça de jour comme de nuit, année après année. Pour bien comprendre, avec l'aide de l'animation par ordinateur, voyageons avec la Terre vers le Soleil, à 100 fois la vitesse de la lumière. Maintenant, nous commençons à apprécier la magnitude de notre étoile. Plus d'un million de planètes Terre tiendraient dans le Soleil. Et pourtant, notre Soleil est de taille moyenne. De nombreuses étoiles dans notre galaxie le dépassent. Actarus est la quatrième étoile la plus brillante dans le ciel. À plus de 320 trillions de kilomètres, cette géante orange est visible à l'œil nu. En rapprochant notre Soleil tout près d'Actarus, on peut voir son immensité. Actarus est 100 fois plus brillante, avec un rayon 20 fois plus grand que celui du Soleil. Et pourtant, Actarus semble petite quand on la compare avec la supergéante Bételgeuse. Bételgeuse a un rayon 600 fois plus grand que le Soleil. De ton rougeâtre, cette étoile est 60 000 fois plus brillante que le Soleil. Mais pourtant, Bételgeuse n'est pas la plus grande étoile de notre galaxie. Plusieurs supergéantes rouges dans la Voie lactée sont encore plus grandes. Certaines ayant un rayon 1500 fois plus grand que celui du Soleil.
Eh bien, une des choses dans la création qui, je crois, démontre vraiment le pouvoir de Dieu, c'est l'énergie qui dégage les étoiles. Comme le Soleil qui dégage plus d'énergie en une seconde qu'un milliard de grandes villes sur Terre. Et enfin, s'il y en avait, un milliard produirait en un an. Et on ne parle ici qu'une du seconde. Vous imaginez, bien sûr, il y a des étoiles qui sont encore plus puissantes que le Soleil. Imaginez toute cette énergie, toutes ces étoiles. Il y a des milliards d'étoiles dans la galaxie et des milliards d'étoiles dans d'autres galaxies. Et pourtant, la Bible décrit la création de toute cette énergie, tout ce pouvoir en une seule phrase. Et il fit aussi les étoiles.
Amen. Dieu est puissant. Il est grand aussi. Si on regarde, et la vidéo vous montrait bien, que si on peut mettre l'image, Pasteur Luc, avec le, où on voit la Terre et après ça la galaxie, notre planète Terre fait partie d'un système solaire qui est dans la galaxie la Voie lactée. J'ai donné une comparaison aux femmes hier. Le système solaire serait gros comme la pièce de 1 euro et le système solaire dans notre galaxie la Voie lactée, la galaxie serait représentée par tout l'Europe et l'Afrique. Donc, si la galaxie, la Voie lactée, est grande comme ça, nous, notre système solaire dans ces continents-là, nous sommes gros comme la pièce de 1 euro. Et nous, la Terre, là-dedans, je ne vais pas vous faire la peine, nous ne sommes pas le centre de l'univers, nous ne sommes qu'une poussière parmi, c'est sur la pièce d'un euro, dans toute cette grande immensité-là. Et ce qui est fascinant, et pourquoi je vous raconte ça, je me joins, vous savez, lorsque Neil Armstrong a marché sur la Lune, le premier homme qui est allé sur la Lune avec Apollo 11, lorsqu'il est revenu, il était dans le vaisseau, et il a mis son pouce comme ça, et il a pu cacher la Terre juste avec son pouce. Et il dit dans sa biographie pourquoi il s'est senti, comment il s'est senti à ce moment-là. Il a dit, je ne me suis pas senti bien grand. Au contraire, je me suis senti très petit. Et pourquoi ce matin, je vous donne des chiffres astronomiques? C'est juste pas pour que vous vous sentiez petit. Dis à ton voisin, ta voisine, t'es pas petit. Tu peux dire à l'autre. Mais avez-vous, dans la Bible, ça nous dit qui est l'homme pour que tu penses à lui? C'est la grandeur de mon propos ce matin. Dans la grandeur du Dieu puissant, du grand Dieu, il est le Dieu personnel de ta vie. Dans toutes ces milliards et ces 10 milliards et ces milliards d'étoiles, la Bible nous dit qu'il connaît chaque étoile par son nom. Et il dit dans Ésaïe, celui qui tient l'univers dans la paume de sa main, vous connaissez la paume, imaginez-vous la grande paume de main que ça doit prendre. Il, dans le même verset qui suit, le même Dieu qui tient l'univers dans la paume de sa main, prend la brebis et la porte contre son sein. Ma parole ce matin, c'est qu'au-delà de ce que tu vis, de ce que tu peux ressentir, de ce que tu peux voir humainement devant toi, peut-être que c'est une tempête, peut-être que c'est la maladie, peut-être que c'est le chômage, peut-être que, peu importe. Dans ce lieu, tu n'es pas invisible. Tu es visible du Dieu Tout-Puissant, du Dieu créateur du ciel et de la terre qui vient en puissance à l'appel de son nom ce matin. Vous savez, on a, avec le télescope Hubble, on a pu avoir toutes sortes d'images fantastiques de l'univers et on a pu découvrir la galaxie la plus lointaine dans l'univers. Elle est à 31 millions d'années-lumière et c'est la galaxie du tourbillon. Et c'est fantastique, vous pouvez voir les images, elles ont circulé sur Internet, mais sur le site de la NASA, on a vu toutes ces belles, cette galaxie-là qui était fantastique. Mais avec les jeux de caméra, Hubble a envoyé une image, si on peut la mettre, la prochaine, regardez, au cœur de cette galaxie, et bien sûr, c'est pas une croix, mais l'image revenue, c'était l'image de la croix. Et ce qui percutait mon cœur, et c'est pour ça que je vous dis un peu de science t'éloigne de Dieu, mais beaucoup t'y ramène, au plus loin de tout l'univers que tu peux t'imaginer, tu retrouves la croix. Peu importe comment tu te sens loin, peu importe ce que tu vis, la croix est à côté de toi. Peu importe, tu ne peux pas te cacher, peu importe le Seigneur. Et savez-vous, la Bible nous dit dans Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8, Jésus-Christ, vous savez, était le. On parle d'un Dieu en trois personnes. Jésus, Dieu créateur. Jésus était aussi avec Dieu au commencement créateur. Et ça nous dit, Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et ce matin, c'est mon message, c'est que ce grand Dieu-là, créateur, tout-puissant de l'univers, et ce même Dieu par amour pour vous et pour moi, pour nous réconcilier avec lui, a envoyé son Fils, choisi d'être cloué à la croix, de quitter le ciel, de quitter cette puissance-là et de mourir à la croix parce qu'il m'aime et parce qu'il vous aime. Et par cet acte-là, nous sommes libres de tout péché. Nous avons le voile est déchiré. Nous avons accès à la pleine puissance du Dieu tout-puissant, créateur du soleil. Amen! Je pensais avoir une acclamation pour le roi des rois. Être tellement aimé que tu décides d'écouter ce qui est le plus grand, de ce qui est le plus puissant pour moi. Réalise-le ce matin. Et ce Jésus-là, il est 100% divin. Il a été 100% humain parce qu'il est marché à côté de nous pour nous comprendre. J'ai parlé hier que Jésus, Dieu, il sait tout de toi. Il voit tout de toi. Il connaît tout de toi. Il comprend tout. Et lorsqu'on traverse les tempêtes de nos vies, vous savez, souvent on dit, entre chrétiens, on parle, on dit « Ah, la tempête, dans la tempête, je suis façonné. » Moi, je crois au contraire que si, lorsque nous traversons des tempêtes, la tempête révèle notre caractère. Et ce matin, pourquoi je vous fais une exposition de toute cette grandeur de Dieu-là? C'est que je voudrais que si tu traverses une tempête, que tu n'arrêtes pas à regarder au vent qui souffle, à la barque qui est comme ça, mais que tu regardes au Dieu créateur. Et si Dieu est capable de créer un soleil aussi puissant, il est capable de calmer les vents sur ta vie. Amen. Regardez dans les Actes des apôtres, c'est le passage dans Actes chapitre 27. Et si on peut mettre ma diapositive, j'ai dit la grandeur de Dieu, c'est la pleine réalisation quand on réalise la grandeur de Dieu, c'est une encre dans la tempête. Et si tu mets la diapositive avec mon petit chat, vous allez voir que j'ai mis cette image-là. Lorsque le vent souffle à droite et à gauche et que vous êtes ébranlé, et je dis toujours, est-ce que ça vous est arrivé déjà d'être ébranlé dans votre vie? Ma prière pour vous, si je peux laisser quoi que ce soit, c'est que tu te souviennes, vous vous souvenez, pardon, d'une petite Québécoise qui est passée, qui nous a montré par quelques images en quelques minutes comment Dieu est grand et puissant. Et lorsque le vent souffle, je m'accroche comme une ancre parce que je sais que mon Dieu est plus grand que ce que je traverse. Et on va aller dans Actes, justement, chapitre 27, versets 1 à 14. C'est le voyage de Paul. Paul est prisonnier. Il s'en va à Rome dans un bateau. Et c'est fascinant. Moi, j'aime lire la parole. Je la lis d'un couvert à l'autre pendant un an. Et je la lis textuellement. Et je crois et je m'imagine les histoires. Et j'embarque dans l'histoire. Et celle-ci, je vais vous la raconter un peu à ma façon. C'est comique un peu parce que ça ressemble presque d'une croisière. Et pour nous, les Québécois, aller à Rome, waouh, on rêve tous d'aller à Rome et ainsi de suite. Et là, je commence à lire le texte, je me suis dit, bon, vous me direz que Paul est prisonnier, il n'était pas en croisière, bien sûr, mais c'est quand on lit le début du texte, je dis, ah ben, c'est des gens qui s'en vont à Rome et il leur arrive toutes sortes d'événements. Et à travers ce récit biblique-là, on peut voir deux façons de vivre des tempêtes. La façon de Paul, prisonnier, et la façon des marins qui ont voulu faire selon leur conscience. Et dans Actes chapitre 27, ça commence comme suit, c'est-à-dire, lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adrimite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Parti de là, regarde, c'est comme vraiment un voyage. Parti de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Pendant plusieurs jours, verset 7, nous naviguâmes lentement et ce ne fut pas sans difficulté. Alors là, le vent commence à souffler un peu plus fort que nous atteignîmes la hauteur de Snin et où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous pensâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté de Salmone. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne sera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Et le centenier, si vous avez une Bible, vous pouvez souligner, le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Bien sûr, pas toujours. Parfois dans nos vies, nous faisons face à des tempêtes parce que nous écoutons des choses à droite et à gauche et nous nous négligeons d'aller chercher le plan de Dieu pour nos vies. Amen, vous êtes d'accord avec moi? Ça nous est tous arrivé. C'est exactement ce qui est arrivé. Et c'est curieux parce que eux, ils ont décidé de ne pas écouter Paul. Pourtant, Paul les avait avertis, puis ont décidé de partir quand même. Et si vous suivez la suite de l'histoire, verset 13, ça nous dit, « Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurakion se déchaîna sur l'île. » Et je vais juste m'arrêter ici. Ils décident de faire leur volonté. Ils décident de ne pas écouter Paul. Et c'est curieux parce que des fois, on prend des décisions comme ça, puis on commence dans la vie, et c'est juste un petit vent doux et léger qui se lève. Et on se dit, ben ça va pas encore si mal, je suis encore en contrôle de la situation. Ça, c'est le genre de foi qu'on a. Vous savez, il y a, la Bible nous parle de foi dans la tempête. On peut avoir la foi, c'est une forme, la foi lorsqu'on est encore en contrôle de la situation. Dites « Amen » avec moi. Mais la vraie foi, c'est lorsqu'on perd le contrôle de la situation et qu'on ne sait plus quoi faire. Et c'est là, dans ce moment-là de notre vie, qu'il faut rester enraciné. C'est dans ce moment-là de notre vie qu'il faut revenir et jeter l'ancre pour être enraciné. Et savez-vous, eux, ce qu'ils ont fait, c'est l'inverse. Verset 15. Ça dit dans le texte, quand ils ont vu que le vent se levait, que le bateau était à droite, à gauche, ils pouvaient plus rien voir. Ça dit, le navire fut entraîné sans pouvoir tenir contre le vent et nous nous sommes laissés aller à la dérive. Verset 17, ça dit même, on se servit des moyens de secours pour ceinturer le navire, on abaissa la voile, c'est ainsi qu'on allait à la dérive. Bien souvent, lorsque le vent devient trop fort, on se laisse dériver. On baisse les bras, on abandonne. Et peut-être, et j'ai pas de jugement ce matin, vous faites peut-être face à un cancer, peut-être face à une difficulté avec vos enfants. Tu cherches, t'es un étudiant, tu sais pas dans quelle voie t'en aller. Et parfois, au lieu de regarder au Dieu créateur tout-puissant, on se laisse tranquillement dériver. Ça peut dire que je viens à l'église quand même, je fais ce que j'ai à faire comme chrétien, mais dans ton cœur, tu commences à t'éloigner. La deuxième étape, savez-vous, qu'est-ce qu'on fait dans la tempête? Verset 18, ça nous dit, « Fortement secoué par la tempête, on jeta le lendemain une partie de la cargaison et le troisième jour, ils lancèrent de leurs propres mains les agrès du navire. » Quand on lit les textes, ça nous dit qu'ils ne voyaient plus ciel ni terre. C'était obscurité totale. Ils n'avaient pas de boussole. Ils étaient complètement à la dérive. Et quand ils se sont mis qu'ils avaient perdu foi, ils se sont mis à jeter en dehors du bateau la cargaison, même leur propre nourriture, vous lirez le texte à la maison, et même plus, il y en a qui se sont jetés à l'eau. Dans la tempête, parfois on commence par juste se laisser dériver. Et parfois, lorsque c'est trop fort, puis qu'on est perdu et qu'on a mal et qu'on est blessé, on commence à jeter par-dessus bord nos valeurs. Commence à prendre des décisions de jeter ton mariage à l'eau, de jeter plein de choses qui te sont propres, tes valeurs, même ta foi chrétienne. De dire, Seigneur, et tu commences à te détourner. Ne crois pas faire dans la tempête, ne te laisse pas dériver, ne jette pas tout par-dessus bord. Et le troisième point, ne désespérez pas. La pire chose à faire, c'est perdre espoir. Et le verset 20 nous dit, « Ni le soleil, ni les étoiles ne parurent pendant plusieurs jours, et la tempête se maintenait si fortement que nous avions perdu finalement toute espérance d'être sauvés. » Je vais vous encourager sur ce matin, si vous êtes dans ces moments de tempête, et j'apprécie tout le service de louange, ne perds pas espoir. Si la situation n'a pas de, ton problème n'est pas réglé, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de solution. La pire solution, c'est de perdre espoir. Juste vous dire, qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème trop grand ou trop petit pour le grand Dieu créateur de l'univers. Je ressentais sur mon cœur ce matin, vous êtes assis, vous ne savez pas à côté de qui vous êtes assis. Vous savez, au Québec, en ce moment, on vit des situations extrêmement difficiles. Dans le dernier mois, il y a eu 2 femmes qui ont tué leurs enfants avec des armes à feu. Un désespoir. Il y a une petite famille dans un petit quartier de Montréal, une famille parfaite qui avait l'air tout beau, et l'enfant de 12 ans, il y a une chicane entre les 2 jeunes garçons, l'enfant de 12 ans a tiré avec un fusil son frère de 16 ans. Il y a un désespoir autour de nous dans la société. Mais même dans l'Église, vous savez, moi, je suis sur l'équipe pastorale, je fais de la relation d'aide, et dans l'Église, les gens vivent toutes sortes de difficultés. Vous savez, la Bible nous dit qu'il pleut sur les justes comme sur les injustes. Et l'Église n'est pas un endroit où on joue à l'Église. L'Église est un lieu de refuge, est un lieu où tu peux venir trouver consolation, trouver restauration, que tu peux venir être apaisé dans ton âme. Et il n'y a pas de jugement. On a entendu le témoignage de Mme Monique Lépine hier, une femme qui a vécu des choses terribles. Les jeunes l'ont eu ici vendredi. Elle a perdu 2 enfants. Ses 2 enfants se sont suicidés. Et je l'ai vue marcher à travers tout ce temps de restauration-là. Et il y a des fois dans la vie, tu as envie de dériver. Parfois, tu as peut-être envie même de tout jeter par-dessus bord, de laisser ta famille, laisser tes valeurs, laisser tout ce qui t'est cher. Et des fois, tu es peut-être même venu avec ton espoir est diminué. Tu dis, Seigneur, à quoi bon? Il y a 2 façons. Je vous ai dit, la tempête révèle notre caractère. Il y a eu ces hommes-là qui ont fait, ils ont perdu espoir, mais il y a eu Paul qui était, lui, au fond du navire. Et Paul a choisi, a fait un choix différent. Et si vous lisez le texte, ça nous dit, au verset 29, et c'était touchant de voir, il disait, « Comme ils avaient peur de voir le bateau s'écraser sur quelques récifs, ils ont jeté 4 ancres à l'arrière en attendant avec impatience la venue du jour. » Et c'est ma parole ce matin, si les flots sont soulevés, si tu ne vois plus ni ciel ni terre, si tu cherches une direction, si tu as besoin de toucher Dieu, lance tes ancres ce matin. Et les ancres, je vais vous en donner 3. Les ancres de notre âme, c'est la présence de Dieu, le plan de Dieu et la promesse de Dieu. Regardez dans Actes 27, verset 23, ça nous dit, « Un ange de Dieu à qui j'appartiens, c'est Paul qui parle. » Regardez la différence, comment Paul réagit, lui, dans la tempête. « Un ange de Dieu à qui j'appartiens et rend un culte s'est approché de moi cette nuit et m'a dit, « Sois sans crainte. » Dis à ton voisin, à ta voisine, « Sois sans crainte. » Pour moi, vous ne l'avez pas convaincu. À celui d'en arrière, sois sans crainte. Et c'est fascinant parce que ça dit, Paul, il dit, un ange de Dieu à qui j'appartiens et qu'à qui je donne un culte s'est approché de moi. Et ce Jésus qui est mort à la croix, ce matin et à tous les matins de votre vie, s'approche de vous. C'est une décision. Tu choisis pas de vivre ce que tu vis, mais tu peux décider que tu vas à la dérive et que tu jettes tout par-dessus bord, ou tu peux décider comme Paul, même s'il était lié, de s'approcher du Dieu Tout-Puissant. Et lorsque tu t'approches de Dieu, il vient et te dit à l'oreille, « Ne crains rien, Jenny. Ne crains rien, Damaris. Ne crains rien, Raymond, Claire, Luc, Dominique. » Amen. Puissant. L'encre de ton âme, la présence de Dieu. La 2e encre, le plan de Dieu. Et Paul dit, ne crains point, il faut que, l'ange a dit à Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Quelque chose que je tente d'apprendre à travers les années, c'est que dans la tempête, tu peux choisir, comme les marins, de dériver. Tu peux choisir de demander à Dieu, pourquoi? Quand on est scientifique et cartésienne, pourquoi je vis ça? Pourquoi pas? Si tu avais fait ci, si tu avais fait ça. Mais tu peux choisir, décider ce matin, qu'à travers ma tempête, je vais tenir ferme parce que Dieu a un plan pour ma vie. à travers un mariage difficile. Tu peux décider de tout lâcher tes valeurs ou tu peux décider, je me tiens pour ma maison, je me tiens pour mes enfants parce que Dieu a un plan et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia! C'est une décision, ça! À travers ta tempête, tu peux décider de tout abandonner, mais crois, l'encre de ton âme, c'est que Dieu n'a pas terminé avec toi. Dieu n'a pas, il va te faire traverser parce que Dieu veut t'emmener plus loin. Dieu a des projets de paix et non de malheur. Il a un avenir et une espérance. Et ça, c'est l'encre de ma vie. Et à qui je m'accroche? Pas un Dieu faible, un Dieu créateur du soleil qui crée et qui vient en puissance à l'appel de son nom, au grand Dieu de l'univers. Amen. Troisième encre, et je termine avec ça, la promesse de Dieu. Acte 27, verset 25 nous dit, « C'est pourquoi prenez courage, car j'ai cette foi en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » Vous savez, et c'est féminin, mais je pense que c'est pas juste féminin. Pour avoir parlé avec beaucoup de gens, souvent les gens me disent, je ressens ci, je ressens ça, je ressens pas Dieu, je ci, je ça. Et vous savez, la foi chrétienne n'est pas une relation d'émotion. Les sentiments. Ce que je sens n'est pas nécessairement la vérité. Ce qui est la vérité, c'est ce qui est écrit dans ce livre. Les gens qui passent à travers la tempête, c'est des gens qui vont aller dans la présence de Dieu et qui vont dire, « Seigneur, je suis pas capable par mes forces, mais viens me relever, viens me parler, viens me fortifier. » C'est des gens qui passent à travers la tempête qui vont dire, « Seigneur, dans cette tempête-là, je vais te glorifier parce que tu as un plan pour ma vie. Je vais tenir ferme, je vais m'accrocher. » Est-ce que j'ai dit que c'était facile? Non. Et c'est des gens qui vont dire, « Seigneur, dans la tempête, tes promesses sont encore vraies. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Alléluia! Et ce qui est vrai, c'est ce qui est écrit dans la parole. C'est ce qui est vrai, c'est que si Dieu est avec moi, qui sera avec contre moi? Ce qui est vrai, c'est que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il va me conduire dans des verts pâturages, dans des eaux paisibles. Et lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai rien, parce que sa houlette et son bâton me protègent. J'ai rien senti, je l'ai cru, je le confesse. Et lorsque l'ennemi de mon âme vient, je déclare la promesse de Dieu. Parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu, rappelez-vous ce que Dieu a fait pour vos vies, ce que vous avez déjà été guéri, touché, aimé, ressentir la présence de Dieu. Dans la tempête, c'est ce qui compte. Et on va terminer avec la dernière vidéo, Luc. Lorsque j'ai vécu une tempête dans ma vie, moi, j'ai ma mère a été diagnostiquée avec un cancer du sein il y a quelques années, cela. Et elle a eu l'ablation des seins, chimiothérapie, radiothérapie. Et tout ça a engagé des problèmes. Elle a fait un accident cérébrovasculaire, un ACV, qui l'a paralysée complètement. Une jeune femme de 59 ans, vous pouvez imaginer, en chaise roulante. Et après cette période-là, pendant quelques années, elle était dans une condition quand même assez difficile et on lui a diagnostiqué un deuxième cancer, un cancer du pancréas, qui l'a emporté en moins de 3 mois. Et c'était une saison, c'était entre mon passage de ma carrière scientifique à l'appel de Dieu sur ma vie. Et j'avais ressenti cet appel-là à l'âge de 15 ans et pour X, Y raison, c'était pas le temps de Dieu pour moi d'entrer dans cet appel-là. Mes enfants étaient petits, mon mari était très impliqué dans le ministère. Et arrive cette tempête, ma mère qui est très, très malade. Et s'ajoute à cela, on était en pleine construction de l'église, vous savez, une construction avec tout le lot de pression. Et ça apportait, mon mari est très, très occupé à l'église. Et on a eu notre petit garçon, Jérémy, on peut mettre la petite photo, quand il était plus petit, Jérémy. Et Jérémy a été très, très malade pendant les 2 premières années de sa vie. Et je travaillais pour une pharmaceutique beaucoup d'heures. Je voyageais pour aller visiter ma mère qui est à 6 heures de route tout seul avec mes enfants. Et s'ajoute à cela un enfant qui est hospitalisé presque à tous les mois pour des fièvres inexpliquées, 40 degrés de fièvre sans arrêt, des 10-12 jours. Il maigrissait à vue d'œil. À la fin, ils l'ont gardé pendant un bon moment parce qu'ils cherchaient qu'est-ce qu'il avait. Et ils m'ont dit, on croit que Jérémy fait un cancer. Et vous savez, moi, ma famille, ma mère a eu 2 cancers. Il y a beaucoup de gens qui ont des cancers dans ma famille. Et la tempête, l'ennemi de mon âme, est venue de me dire, probablement, ton fils, c'est sûr qu'il va... Comprenez-vous, j'avais de la misère à croire que Dieu pouvait intervenir. Et mon mari, on était à l'hôpital, et on dit, on va injecter de la radioactivité dans le corps de ton fils. Ça va prendre toute la nuit, 24 heures, et le lendemain, on va y passer un scan. On va pouvoir savoir s'il y a un cancer. Si vous êtes parent dans ce lieu, on est à 24 heures de vous dire si votre fils a un cancer rare et évidemment très dangereux et mortel. Et finalement, mon mari, il dit, veux-tu, je vais t'envoyer des femmes pour prier avec toi? J'ai dit, non, je veux rester seule dans la chambre d'hôpital. Et quand je vous dis que la tempête révèle notre caractère, ce fut l'une des nuits la plus longue de ma vie. J'ai passé par la dérive, le pourquoi et tout ce qui peut arriver. Puis de dire, Seigneur, on t'a servi, on t'a tout donné. Et après ça, de dire dans cette tempête-là, de dire, wow, un instant, Dieu est encore en contrôle de la situation. Et le Seigneur m'a donné une parole qui était la mienne. C'est pour ça la présence de Dieu. On peut vous encourager, on peut prier avec vous. Mais il n'y a rien de mieux que quand tu ouvres ta Bible dans la tempête et que Dieu te donne un texte pour toi. Et c'était le verset où c'est la mère de Moïse qui prend le bébé Moïse, qui le met dans le panier et qui laisse aller le panier. Et ça dit, voyant qu'elle ne peut plus rien faire pour lui, elle le laisse aller. Et finalement, c'est ce que j'ai fait. Durant cette nuit-là, j'ai dit, Seigneur, je te remets mon fils. Je prie, Seigneur, pour sa guérison. Et je commence à confesser les promesses de Dieu. Et Seigneur, viens dans ta présence, viens me calmer, viens me donner une paix. Et merci, Seigneur, on a passé les examens et mon fils est en pleine santé aujourd'hui. Alléluia! Mais si on va terminer... Et à travers cette tempête-là, j'ai pris des décisions pour ma vie. C'est curieux à dire, hein? C'est à ces moments-là que j'ai dit au Seigneur, je veux te servir à temps plein. J'ai décidé d'abandonner cette carrière-là. Je me donnais à 100% à l'Église. Et de cette tempête-là, est sorti d'autres ministères, mais Pasteur Luc, vous avez vu, à l'Église Nouvelle Vie, on est les femmes, on a des groupes de restauration, on fait toutes sortes de choses pour les femmes. Mais ce qui était sur mon cœur, c'est faire des œuvres humanitaires et particulièrement pour les parents d'enfants malades. Et parce que moi, j'ai vu des mères à côté de moi qui ont eu des diagnostics de cancer et voir la détresse sur leur cœur. Et depuis ce temps-là, de cette tempête-là, est sorti un ministère qui, à plusieurs fois dans l'année, les femmes de l'Église, nous allons visiter l'hôpital spécialisé pour enfants malades, particulièrement en oncologie. Et on sert aussi des repas au manoir, un lieu d'hébergement pour les parents qui vivent des fois des mois à l'hôpital. Alors, je voulais juste terminer avec cette vidéo-là, juste pour vous donner l'espoir que dans la tempête, il y a un plan. Et si tu t'accroches, Dieu peut utiliser toutes choses pour sa plus grande gloire. Amen. On donne des couvertures aux enfants. juste, est-ce que je vais inviter peut-être Anne-Christelle pour le panier? Je ne veux pas aller bien loin, je vais vous laisser toute la place, pasteur. Mais j'aimerais peut-être juste qu'on puisse, est-ce qu'on peut peut-être se lever ensemble dans la présence de Dieu? Et j'aimerais prier avec vous ce matin. Je ne ferai pas d'appel en avant, je veux respecter le temps qui m'est alloué. Mais si vous faites face à une tempête, nous sommes dans la maison de Dieu. C'est l'endroit parfait pour jeter les ancres ce matin. Au lieu de se laisser dériver à droite, à gauche, je plaide que tu ne jettes pas tout par-dessus bord et que tu perdes espoir. Mais si ce matin, et ça nous est tous arrivé d'être dans une période de nos vies où on a besoin que Dieu calme la tempête, ça nous est tous arrivé qu'on a eu de la difficulté à lancer l'ancre. Mais ce matin, dans la maison de Dieu, en famille, un lieu de refuge où il n'y a pas de jugement, j'aimerais juste prier avec toi ce matin, sans venir à l'avant, bien simplement. La simplicité d'une prière qui touche et ouvre la puissance du ciel. Ce grand Dieu créateur, tout puissant, grand Dieu de l'univers, créateur du ciel et de la terre, est ici dans ce lieu. Il est au milieu de nous. La parole de Dieu nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. J'enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur, qui sera tous les jours avec vous. Celui qui te fortifie. Celui qui peut te donner ce matin le don de la foi, de voir les choses qui ne sont pas comme elles vont devenir. Qui va te donner la force de te rapprocher de lui. Qui va te donner la force ce matin de croire que Dieu n'a pas terminé dans ton mariage. Que tes enfants peuvent revenir à Dieu. Que Dieu peut ouvrir les cieux, te trouver un emploi, pourvoir à tes besoins. Que Dieu peut te guérir ce matin parce qu'il est Yahvé Rapha, celui qui guérit. Et que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons accès à la puissance de la guérison ce matin. Celui qui est ici te dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je te secours par ma droite triomphante. Je ne suis pas un Dieu faible, je suis un Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu de toute possibilité. Je suis le Dieu qui est capable de rendre les choses impossibles possibles, de ressusciter ce qui est mort dans ta vie, des ténèbres de faire apparaître la lumière. Alléluia, si tu es venu avec juste un besoin, juste à m'élever, juste pour que je puisse identifier, te dire, prie pour moi, pasteur, j'ai besoin que tu pries. J'ai besoin que Dieu calme les tempêtes. J'ai besoin que Dieu me parle ce matin. J'ai besoin d'être rafraîchi. Je vais t'attendre. Pendant que tout le monde a les yeux fermés, c'est entre vous et Dieu. C'est entre vous et Dieu. Juste, pas besoin d'avoir une grande tempête. Ça peut être une petite tempête. Peut-être que tu as besoin d'une direction claire. Peut-être que tu as besoin de toucher le bord de son vêtement. Alléluia. Seigneur Jésus, tu vois chaque main levée ce matin. Chaque besoin. Seigneur, tu nous connais par notre nom. Tu connais les craintes, peut-être les angoisses, l'anxiété dans notre âme. Je te prie ce matin que tu viennes toucher les hommes et les femmes dans ce lieu. Les hommes et les femmes qui, par un geste de foi, disent « Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, viens calmer ma tempête ce matin. Seigneur, Éternel Dieu Tout-Puissant, je te prie en ce moment que ton Saint-Esprit puisse se déverser du devant de la salle jusqu'à l'arrière, de chaque côté, que tu passes à travers les allées. Tu es au milieu de nous. Et en ce moment, Seigneur, que tu puisses consoler, renouveler des forces. Je te prie, Seigneur, que mes frères, mes sœurs puissent ressentir ta présence en ce moment. Et lorsqu'ils te ressentiront, ils sauront que tu es avec eux au milieu de nous en ce moment. Seigneur, il n'y a pas de vent trop fort et de tempête trop forte pour toi. Il n'y en a pas des trop petites. Seigneur, nous faisons appel à toi. Et nous te disons merci. Merci parce que nous sommes aimés, nous sommes pardonnés, nous sommes rachetés. Et nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour avoir accès à ta présence. Merci pour le sacrifice de Jésus à la croix. Et par ce sacrifice-là, nous avons pleine puissance ce matin. Ô Jésus, je te prie de prendre chaque homme, chaque femme au creux de tes bras. Tu les protèges, tu les portes contre ta poitrine et tu leur dis combien tu les aimes, combien ils sont précieux pour toi. combien tu as des plans, que tu ne les abandonneras pas, que tu es le Dieu fidèle qui tient ses promesses éternellement et qui accomplit sa parole parce qu'elle est vérité, elle est puissante, elle est éternelle. C'est dans le beau nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur, le roi des rois, le Dieu tout puissant. Alléluia. Jésus.